L'étranger. Il entra. Dans la grande salle enfumée, trois chalets éclairaient faiblement les visages réunis autour de la table pour le réveillon de Noël. La famille entière se pressait sur les bancs que l'usure et la crasse rendaient luisants, tant y avait frotté de pantalons de velours, de cotillons de femmes et de cuisses nues d'enfants. Dans l'âtre, recouvert d'une suie épaisse et molle comme du pain brûlé, un feu de bûches énormes sautait avec le vent d'hiver qui hurlait sur les portes. Les boudins noirs et visqueux fumaient dans les assiettes à fleurs et le vin nouveau pétillait clair dans les verres. Il entra. Le vent rabattit la porte contre le mur, un peu de plâtre tomba sur le plancher. Il était grand. Une pèlerine bleue lui tombait au mollet, son large chapeau et ses épaules étaient couverts de givre. « Bonsoir, la compagnie !» Tous les visages étaient tournés vers l'homme, il était tout droit sur le fond noir de la nuit. Le maître se leva. « Entrez, brave homme, dit-il, et fermez le froid dehors. » L'étranger gratta ses pieds sur la pierre et s'avança dans la pièce. « Chauffez-vous d'abord, dit le maître. Maria, donne une assiette et un verre. Vous allez souper avec nous. » La fille enjamba la planche de chêne. Elle était très jeune et sautait un peu en marchant. En passant près de l'homme, elle lui prit sa pèlerine qu'elle suspendit au manteau de la cheminée. Les conversations joyeuses s'étaient tues. On était gênés par la présence de cet inconnu. On attendait. Mais l'homme dans le cantou tendait aux flammes ses membres engourdis. Quand il sentit que la chaleur mordait son visage et grignotait ses yeux pleins de larmes, il se tourna vers la tablée silencieuse. Il ne regarda pas le maître qui mangeait de ses mains puissantes et déformées par le travail, ni les valets, curieux et insignifiants, ni la grand-mère qui tremblait à petits coups, ni les jeunes femmes qui se serraient près de leurs hommes, ni Maria qui le fixait de ses grands yeux étonnés. Il regarda un petit garçon qui dormait les coudes sur la table. Il le regarda longuement et sa figure gercée se plissa d'un sourire. « Qu'il est mignon, dit-il, et il s'assit près de lui. À ces mots, on sut que c'était un brave homme, et la tablée reprit ses conversations, ses boutades, ses éclats de rire qui couvraient la plainte du vent. « Vous n'êtes pas du pays ?» demanda le maître. « Non, je ne connais pas la région, je viens de la montagne. De quel côté ?»« Du côté du sud. » Toute la tablée écoutait. « C'est dur ici ?» demanda l'homme. « Bon, pas plus qu'ailleurs. » « Oui, et puis vous avez des jeunes. » Ils sont pleins de courage, pleins d'espérance. Des fois, grommela un des fils. L'étranger le regarda fixement. Pourquoi ? Vous n'avez donc pas d'espérance ? Oh, je ne dis pas, mais vous savez, ça trompe souvent les espérances. Parce qu'on ne sait pas les attendre, parce qu'on ne sait pas les désirer. Il faut toujours attendre un miracle, quel qu'il soit, et le miracle vient, toujours. Vivre comme les enfants dans l'attente de Noël. La tablée entière écoutait. Tous, jeunes et vieux, s'étaient redressés et ils écoutaient de toute leur force, le visage sculpté par de grandes ombres. Chaque instant t'apporte une joie nouvelle et tu dois sentir cette joie, tu dois aimer cette joie. Parce que le blé va sortir, ou parce que les épis se forment, parce que les fleurs des arbres vont s'ouvrir, parce que ton petit va revenir de l'école du bourg. Il courra dans les champs vers la terre que tu laboures, et tu arrêteras tes bœufs, et tu sentiras autour de ton cou ses petits bras. Tu dois aimer cette joie, alors tu seras jeune et fier comme les peupliers de la colline. As-tu remarqué comme est joyeux le tremblement du peuplier sous le vent ? Il faudrait trouver des joies, encore et toujours. La terre n'est faite que de joies. Elles sont innombrables comme les étoiles. Et quand on a fini avec une joie, on en cherche une autre et on la trouve. L'homme parla longtemps encore, et la tablée écoutait. Il leur parla longtemps des joies simples comme les arbres, des joies pures comme les enfants, des joies solides comme le rocher, des joies douces comme le museau du cheval, des joies émouvantes comme la fumée qui monte de la ferme et annonce le repas du soir aux travailleurs des champs. Tous ne comprenaient pas, mais ils n'osaient pas l'interrompre. Ils sentaient que l'étranger portait en lui cette joie mystérieuse dont il parlait, et ils auraient voulu qu'il leur parlât longtemps encore, parce qu'ils étaient heureux en l'écoutant. Et cela leur suffisait. La nuit était avancée quand on parla de dormir. L'homme dit qu'il coucherait dans la grange. Il embrassa le petit qui dormait dans les bras de sa mère. Tout le monde se dit adieu, suivant la coutume, et l'homme répéta cet adieu gravement. Et enfoui dans le grand lit de plumes, chacun pensa longtemps à cet homme qui dormait dans la grange, mystérieux, messager de Noël, et qui apportait dans son cœur tant de choses douces et inconnues. Les premiers chants de coq réveillèrent Maria. Elle enfila son jupon, son caraco, ses gros bas de laine et descendit dans la cuisine. Elle alluma le feu et pensa « Je vais aller le chercher. Il doit geler dans la grange. » Elle ouvrit la porte de la cuisine. Une nuit sans lune et quelques étoiles lointaines avec un vent glacé. Elle prit une lanterne, traversa la cour, ouvrit la grange et leva sa lanterne. La grange était vide. Il est parti, songea-t-elle. Une peine étrange fit sa place en son cœur, une peine d'où plus tard naîtrait la joie. Elle s'assit à l'endroit où il avait dormi et elle resta longtemps à caresser de sa main fine la paille tiède encore de la chaleur de l'homme.